Acte 11, versets 19 et suivants. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Et juste pour avoir un peu la fin de l'histoire, à la fin du chapitre 12, verset 25, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Voilà, c'est à partir d'ici que le christianisme va commencer à vraiment faire boule de neige. Le livre des Actes, on aime bien ce livre parce que ce livre nous décrit l'Église de Jésus-Christ dans sa forme la plus dynamique, la plus réveillée, la plus pure, pas utopique, pas idyllique, qui avait quand même des obstacles et des problèmes. Mais on voit vraiment, oui, un zèle, une explosion, une dynamique qu'on aime bien voir. Et ce passage ici, on a cette phrase très intéressante qui signale encore une étape charnière pour ce groupe, ce nouveau groupe. Le verset 26 dit que ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc voilà, ils commencent à avoir une identité, les gens peuvent voir ces gens-là et ils vont les appeler chrétiens pour la première fois. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'appellent chrétiens qui ne le sont pas. Et à nous de creuser un peu, de réfléchir un peu pour savoir ce qui se qualifie vraiment de chrétien. J'ai pensé, il y avait une étude biblique que j'avais fait il y a quelques temps, on étudiait un peu les manuscrits de la Bible. Et à la Bibliothèque nationale de Paris, il y a un fameux manuscrit, un codex, avec quasiment toute la Bible. Et ce qui est intéressant dans ce manuscrit, c'est qu'un jour, quelqu'un avait besoin du papier. Il y avait un manuscrit de la Bible, et un jour, quelqu'un avait besoin du papier. Et donc, ils se sont mis à écrire par-dessus la Bible. Et donc, la Bible a été effacée. Et puis, il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Alors, le travail, ça a été de retrouver la première couche, le texte de la Bible. Et c'est maintenant, avec la technologie, on arrive à faire ça. La même chose, on a la même chose avec les tableaux de peinture. De temps en temps, on découvre le travail d'un grand peintre caché sous une autre couche de peinture, sur un autre tableau. Et c'est ce que nous devons faire aussi avec toutes les couches qui se sont ajoutées, avec tout ce qui s'est fait. On veut quand même retrouver le grand travail de l'ouvrage originel, l'œuvre de Jésus-Christ. qui est parfois caché sur plein de choses d'autres. Et c'est cette église à Antioche qui nous permet de le faire, je pense. Il y a une place particulière dans nos pensées et dans la Bible pour Jérusalem. On aime bien Jérusalem, on connaît bien Jérusalem. Mais en fait, je me suis rendu compte ici que l'église la plus importante, l'église qui a eu le plus d'impact dans le livre des Actes et dans le Nouveau Testament, c'est l'église d'Antioche. Dans l'implantation et dans la croissance de cette église, nous allons voir la force d'un christianisme authentique. Nous allons voir ce qu'on peut appeler vraiment chrétien. Alors voyons ça de plus près. Qu'appelle-t-on chrétien ce matin grâce à cette église d'Antioche? Voilà comment j'ai un peu organisé ma pensée. Chrétien, tout d'abord, ce n'est pas la vie de monastère. Ensuite, chrétien, ce n'est pas la vie de ghetto. Et enfin, chrétien, ce n'est pas la vie du château. Ce n'est pas la vie de château, ce n'est pas la vie de ghetto, ce n'est pas la vie de monastère. Et j'espère qu'on peut retrouver un peu certains éléments clés du christianisme, la vraie foi chrétienne. Tout d'abord, ce n'est pas la vie de monastère. Et je pense que cette église à Antioche peut nous aider à le voir. Mais je commence avec cette question, peut-être pour aider à comprendre. Est-ce que la foi chrétienne s'épanouit au mieux quand elle est protégée, isolée, coupée du monde? Eh bien, la chose étonnante dans ce passage, c'est que l'église de Jésus-Christ, là où elle a vraiment explosé, là où ça a vraiment fait boule de neige, c'était dans une ville comme Antioche. On voit que c'est là où Dieu a envoyé son témoignage, c'est là où il a béni. On a plusieurs versets, verset 21 qui dit « un grand nombre s'est converti », verset 24 « ils ont une foule nombreuse », verset 26 « beaucoup de personnes ». Donc oui, quelque chose de fort se passe ici à Antioche, mais il faut connaître un peu la ville. Antioche, c'était la troisième ville de l'Empire de l'époque. 500 000 habitants. Une grande ville. Hein. On parle d'une ville qui était 10 à 20 fois plus grande que la ville de Jérusalem. C'était l'Empire romain. Par rapport à l'Europe, ce serait comme Madrid après Londres et Paris et Madrid. Donc une grande ville comme ça, ou bien si on était en France, ce serait comme Lyon ou comme Toulouse. C'était une très grande ville. Alors, de premier abord, cela peut nous étonner que l'Église se porte si bien dans ces endroits, dans ces grandes villes, parce que ce sont les endroits, ces endroits très urbains, très métropolitains. En général, quand on passe à la grande ville, les grandes villes sont connues pour les problèmes, les vices, les maux, toute cette concentration de mœurs et de pensées qui sont anti-dieux, qui sont païens, et tout ça. Si vous voulez peut-être mieux le comprendre, pense, si vous êtes parent, à vos enfants qui partent faire leurs études à la grande ville. Ce n'est pas rassurant parfois de voir ses enfants partir en métropole ou partir à la grande ville. On se dit qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui va lui arriver. Alors cette jeune église, dans son enfance, un peu ça, à cause de la persécution, elle doit partir, elle doit quitter Jérusalem, quitter la maison protégée. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, nous découvrons ici que la vraie foi, le vrai christianisme peut survivre et même peut s'épanouir au contact du monde réel, au cœur de la culture autour de nous. C'est ça qui est fort ici. On a souvent eu tendance de penser que plus la foi chrétienne est isolée, à l'écart, protégée, coupée du monde et de ses problèmes, de ses influences, mieux elle se porte. Le monastère, c'est l'exemple classique, le cloître. On va essayer de se couper de toutes ces influences pour pouvoir grandir, épanouir et croître. Mais ce n'est pas du tout ce que les premiers chrétiens ont fait. Ils ont été lancés, propulsés dans cette grande ville, Antioche, une grande ville, troisième ville de l'Empire, avec tout ce qu'il y avait là, tous les problèmes, tous les péchés, toutes les vies cassés, eh bien c'est là où ils ont eu un témoignage, c'est là où Dieu a béni. Même moi, je reconnais, parfois je me dis que l'idéal dans la vie serait d'habiter dans un petit bled, là où les terrains sont pas chers, avec une petite église sympathique, remplie de familles sympathiques et stables et merveilleuses. De toute manière, on aurait dit que la foi chrétienne aurait mieux pris dans une ville comme Jérusalem, très homogène, un arrière-plan religieux, la crainte de Dieu qui était quand même installée à peu près dans tout le monde. Il y a déjà une insistance sur la moralité. On aurait dit que voilà, la foi chrétienne, ça a bien marché là, mais à une grande ville comme Rome, comme Antioche, danger. Eh bien non, c'est la bonne nouvelle du Seigneur, c'est ce qu'ils ont annoncé, la bonne nouvelle, c'est là où la bonne nouvelle paraissait si bonne. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus a souvent plus de force et d'impact dans des situations où tout n'est pas sympathique et stable et normal, où les choses sont plutôt cassées et compliquées. C'est là où la bonne nouvelle montre toute sa puissance de transformer les vies. Et c'est au contact de tout ça que nous voyons vraiment sa puissance de transformer la vie. Donc la vraie foi chrétienne, elle est là pour le monde vrai, le monde réel dans lequel nous vivons, pas un monde utopique qu'on s'imagine. Une foi chrétienne qui meurt dans la grande ville, ce n'est pas la vraie foi chrétienne. Si notre foi, si notre évangile ne fonctionne pas dans un lieu comme Toulouse, ce n'est pas l'évangile. Jésus a dit, vous êtes de sel et la lumière du monde. Vous êtes de sel de la terre et la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous êtes du colorant pour aider un peu. Vous prenez la peinture blanche, vous prenez la peinture noire, vous mélangez, vous avez gris. Et parfois on se dit, j'avais un arrière-plan très solide chrétien, j'arrive dans une ville comme ça, avec toutes ces influences et le mélange, le compromis, voilà le résultat. Mais c'est pas ainsi que la vraie foi fonctionne. Il a dit, vous êtes la lumière, vous mélangez lumière et ténèbres, vous avez lumière. Et c'est ce qui est fort quand on va au contact du monde réel avec la bonne nouvelle, avec notre foi. Parfois, il y a un effet tout au contraire de ce qu'on peut penser, pas être étouffé, mais être manifesté. Et autant, oui, on a vu des jeunes arriver à la ville ou en métropole et être embarqués dans le monde, autant on a vu aussi, ce qui me réjouit, les jeunes venir et se rendre compte que leur foi, ce qu'ils ont appris, eh bien, c'est une vision valable pour le monde aujourd'hui et que l'évangile apporte des vraies réponses à des questions vraies que peut se poser ce monde et parfois confronté à cette nouveauté, à tout ce monde. Et c'est l'occasion de s'affirmer dans la foi et d'avancer avec Christ. Donc c'est ça, la vraie foi chrétienne, c'est que elle va au lieu, elle va au-devant du monde, là où habitent les gens, là où il y a un grand besoin de connaître l'évangile, et puis elle arrive à vivre sa foi sans compromis, sans être influencée dans le mauvais sens, mais en arrivant à se fortifier. Donc ça, le chrétien, c'est pas la vie du monastère, c'est la vie réelle, la vie de tous les jours, la vie authentique, mais c'est ce qu'on peut vivre en tant que chrétien. Ensuite, ce n'est pas la vie du ghetto. Alors, ghetto, dans le sens neutre, le sens d'origine, où un ghetto, c'est un quartier, différents quartiers, par exemple, de la ville, où chaque ethnie, chaque groupe se trouve dans son quartier. Donc, beaucoup de villes sont organisées, ont été organisées dans le passé, dans des différents quartiers ethniques qu'on appelle ghetto. Et c'est ça qu'il faut ici. Le chrétien, ce n'est pas la vie du ghetto. Versets 19 et 20. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc la tendance naturelle d'aller toujours vers ceux qui nous ressemblent. Donc ils vont, ils annoncent la parole aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. C'est ça qui est bouleversant ici. Les Juifs commencent à évangéliser non juste les Juifs, mais les Grecs, et beaucoup de gens commencent à croire. Et maintenant, ils sont dans la même église ensemble. Et c'est ça la puissance de l'évangile, d'aller au-delà de notre ghetto et de toucher d'autres. Et cela a été certainement un témoignage de plus aux villes à tout entier autour de voir maintenant cette nouveauté et maintenant ils sont ensemble. Qu'est-ce qui réunit des personnes qui étaient jusqu'à présent séparées chacun dans son coin? Eh bien, ils sont venus. Antioche, ce qui est intéressant, Antioche, de par sa situation géographique, était très cosmopolite. Ça vaut la peine de regarder un peu si vous avez une carte dans la Bible, de la situer un peu dans votre esprit. Aujourd'hui, ce serait à la Turquie moderne. Un peu le Méditerranée, la Turquie juste en haut, au nord d'Israël, de Syrie, Antioche. Et donc Antioche, c'était vraiment un carrefour. Il y avait des gens qui venaient de l'Asie, donc à Antioche on trouvait des Perses, on trouvait même des Chinois qui venaient par là. Il y avait des gens qui venaient du sud, de l'Afrique, donc il y avait des Africains. Et puis il y avait des Européens venant de tout le bassin méditerranéen. Donc c'était un carrefour pour tout ce monde. Antioche avait 18 quartiers séparés pour les différentes populations ethniques. Donc nous on dit ghetto, donc voilà, 18 différents quartiers où chacun se regroupait par ethnie. Quand ils ont construit la ville, c'était un général d'Alexandre le Grand qui a commencé cette ville, et donc il a nommé d'après son père, Antiochus. Et voilà, ils ont construit les villes, souvent les villes à l'époque ont construit des murs autour pour se protéger de l'extérieur, mais cette ville avait aussi des murs à l'intérieur pour pouvoir cloisonner ces différents ghettos, ces différents quartiers, pour garder une certaine stabilité, une certaine paix. On ne voulait pas justement que les tensions montent à cause de toutes ces choses, avec toutes ces ethnies regroupées, compactées ensemble. Donc la population était très diverse, mais pas du tout intégrée. Et puis, c'est ça, quelque chose de nouveau se passe. Cet évangile est annoncé. Ces premiers chrétiens sont prêts à franchir ces barrières sociales, ethniques, et puis apporter l'amour de Dieu, apporter la bonne nouvelle aux autres. Et c'est ça qui fait venir les gens de Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passe ici à Antioche? C'est inouï. C'est ça qui a obligé les gens à inventer un nouveau nom pour ce groupe. Ils peuvent plus les appeler, c'est des Juifs, on ne peut plus dire c'est des Grecs, on avait l'habitude de parler comme ça. Maintenant, on est obligé de prendre un nouveau nom. Il y a un autre groupe maintenant qui sont des chrétiens, et qui est composé de gens d'un peu partout. Donc c'était merveilleux ici, les chrétiens commençaient à traverser des barrières sociales, ils allaient vers les autres, ils aimaient leur prochain, et non pas seulement le prochain dans leur ghetto, mais le prochain dans le quartier à côté. Et ils forment une communauté ensemble, et ils s'entendent, c'est ça qui est merveilleux, c'est ça la nouveauté, c'est ça qui est merveilleux, ils s'entendent dans l'amour. Vous regardez au début du chapitre 13, il y a le nom du conseil. On voit le conseil d'Antioche, les responsables d'Antioche. Parmi les cinq noms, il y a au moins trois ethnies venant de quatre continents différents. À l'époque, ça c'est inouï. Encore aujourd'hui, on pense que la religion est une fonction de sa culture. Si on est arabe, eh bien, on est musulman. Si on est italien, on est catholique. Si on est juif, on est juif. Mais la vraie foi chrétienne, le christianisme authentique, ce n'est pas juste une religion parmi les autres ou une ethnie parmi les autres qui a ses croyances. C'est radicalement autre chose. C'est cette bonne nouvelle que les gens de partout commençaient à croire et s'unir. Et donc le vrai christianisme, la foi chrétienne authentique, c'est la plus ouverte, la plus accueillante, la plus tolérante de toutes les pensées, de toutes les philosophies qui existent. C'est comme ça qu'on peut reconnaître la vraie foi chrétienne, quand il y a cet accueil, cet amour pour l'étranger, pour l'adversaire, pour l'ennemi même. Bien sûr, la foi chrétienne ne tolère pas le péché, l'erreur, mais comme rien d'autre, il tolère l'étranger, celui qui n'est pas comme nous. Et cet évangile, cette bonne nouvelle, surmonte notre réflexe naturel d'aller juste vers ce qu'on connaît, avec lequel on est bien, ce qui nous ressemble, ça c'est assez facile, mais l'Évangile surmonte ce réflexe naturel, comme on voyait à Antioche, pour aller vers les autres et créer en nous un amour et une entente, une unité que seul Dieu peut faire. Donc le vrai christianisme, c'est pas la vie des ghettos, c'est la vie unie en Jésus-Christ. Et enfin, la foi chrétienne, c'est pas la vie de château. Pas la vie de château. Quand je parle de la vie de château, voilà, l'idée c'est on ramasse des biens, on s'enrichit, on en profite, on vit pour soi, on cherche ses conforts, comme les châteaux peuvent en témoigner. Mais cette église, véritablement chrétienne, cette église n'a rien de tout ça. Ce qu'on voit dans cette église d'Antioche, c'est qu'elle vit pour les autres, elle vit pour partager, elle vit pour donner. Et là, tout de suite, on voit un cas concret se présenter pour ces chrétiens, c'est cette famine dont annonce Agabus, une famine, une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, verset 29, les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. J'ai lu quelque part ici, je n'ai pas pu vérifier, mais le commentaire disait, c'est le premier cas dans toute l'histoire où une ethnie secourt fait don à une autre. C'est quand même assez rare. Et donc voilà, la famine était sur toute la terre. Donc, Jérusalem était touchée par la famine. Mais quand il dit sur toute la terre, ça veut dire qu'Antioche était aussi touchée par la famine. Et vu la population d'Antioche, certainement, ils étaient frappés pire qu'à Jérusalem. J'ai regardé un peu la densité de population à Toulouse. Et puis, pour comparer à Antioche, parce que j'avais ça aussi, des chiffres. À Toulouse, ça c'est sur Wikipédia, on est 3721 habitants par kilomètre carré. Antioche, 48 000 habitants par kilomètre carré, et les bâtiments n'avaient pas d'étage, comme la plupart des bâtiments à Toulouse, des immeubles ont des étages. Alors, je vous laisse imaginer des conditions de vie normales, et puis dans une famine, ou dans une épidémie, ou dans un tremblement de terre qui arrivait assez souvent à Antioche. Mais ces chrétiens-là, malgré cette famine, malgré leur situation, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident d'envoyer un don à Judée, à des frères juifs qui, encore là, comme on parlait de la barrière ethnique qui pouvait les séparer, maintenant ça c'est fini, maintenant. Il y a cette générosité nouvelle qui s'exerce. Et puis, leur geste devient un modèle pour, on va dire, tout le Nouveau Testament. Paul va continuer dans ce sens-là quand il est dans d'autres églises et d'autres plus tard dans son ministère. Il va fonctionner de la même manière. Les églises païennes, il va s'occuper de faire des collectes, des dons pour envoyer aux autres églises, notamment les églises en Judée. Et donc, il peut dire, en tout cas pour les églises de Macédoine, c'est un autre don qui a été fait, mais il dit en 2 Corinthiens 8, 2, « À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Donc ça ce n'est pas la vie de château. Ça, c'est la vie d'une générosité que seul produit l'Évangile. Donc, ce n'est pas la vie de château comme on voit dans ce famine. Regardez aussi Barnabas. C'est très encourageant ici. Barnabas, il se rend sur place pour authentifier un peu tout ce qui se passe. Et il voit qu'effectivement, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et donc, il reste et il enseigne. Et on voit que Barnabas, certainement, c'était un excellent prédicateur. Quelqu'un qui encourageait, qui exhortait, c'était un excellent prédicateur, on voit un peu ses fruits. Alors, qu'est-ce que Barnabas y fait? Est-ce qu'il dit, bon, Voilà, parce que on voit qu'il y a beaucoup de conversions. Maintenant, vous pouvez me donner un titre important, parce que et on peut d'ailleurs construire une grande cathédrale, un grand bâtiment ici pour asseoir notre nom. C'est pas ce que fait Barnabas. Ce que Barnabas fait, c'est d'accord, je vois beaucoup de succès, je vois beaucoup de fruits, mais en fait, je connais quelqu'un qui ferait encore mieux que moi. Je vais aller le chercher et on va travailler en équipe ensemble. Et donc, il va chercher Saul, il va chercher Paul, qui va venir et à deux, ils vont continuer à enseigner avec un grand ministère. Saul, c'est vraiment la personne adaptée à la situation avec sa culture juive, sa culture grecque. Il va pouvoir aussi avoir un ministère très efficace. Mais les voilà ensemble. Et encore, on voit que dans l'attitude de Barnabas, il n'y a pas cette... il y a ce qu'on voit, le côté chrétien véritablement. Il n'y a pas un désir de se faire un nom. Il n'y a pas un désir de se glorifier, mais un désir simplement que l'Évangile avance. Il est prêt à aller chercher quelqu'un mieux que lui et travailler en équipe. Et même là, cette église ne s'habituent pas trop au confort. Ils ont Barnabas et Saul, c'est quand même une bonne équipe. C'est pas mal d'avoir ces deux-là comme prédicateurs qui s'échangent à tour de rôle. Mais cette église va encore être prête à donner, à sacrifier. Cette église va, on va voir ça dans la suite, mais cette église va envoyer ses deux meilleurs ouvriers au loin vers la mission. Donc, c'est pas la vie du château, c'est la vie de sacrifice. C'est ça, le christianisme véritable. Antioche. Cette église sera la force dominante du livre des Actes, finalement, parce que c'est elle qui envoie Paul sur ses voyages missionnaires. Le reste du livre des Actes, c'est le récit des voyages missionnaires de Paul. Et il part en voyage, il revient à Antioche, et puis il repart, il revient. Et donc, en voyage, Antioche, c'est la base. C'est l'église qui envoie, c'est l'église qui soutient, c'est l'église qui prie pour toutes ses actions missionnaires. Donc, c'est la force dominante du livre des Actes. Mais ce n'est pas elle qui est mise en avant. Même moi, dans ma pensée, je ne pense pas souvent à Antioche comme le rôle clé du Nouveau Testament. On ne parle pas d'Antioche, on parle de son Christ, on parle de son Sauveur. Et c'est pour ça, c'est pour la première fois qu'il fut appelé chrétien, c'est qu'on y voyait, à Antioche, on y voyait Christ à travers ses gens, à travers ses disciples. Eh bien, on voyait Christ, on ne voyait pas autre chose. Et donc c'est ça, chrétien. Pour revenir au sens du mot, hein, on peut se qualifier chrétien dans la mesure que c'est Christ que l'on voit dans notre vie personnelle, dans notre vie d'église. Et Christ, c'est lui qui a fait tout ça. Christ, il n'est pas resté dans son cloître, il n'est pas resté dans son quartier au ciel, il n'est pas resté dans son château, son palais, mais il est venu vers nous pour nous secourir, pour partager. Dieu, il avait vu notre famine spirituelle qui frappe notre cœur et notre vie, notre pays. Il a vu notre famine spirituelle et il a envoyé un don. Lui, il a envoyé un secours. Et le don qu'il a envoyé, c'était son fils Jésus-Christ, grand sacrifice, grand prix. Il a envoyé ce don vers nous. Et Christ donne sa vie pour nous. Il meurt pour nous nourrir, pour nous faire vivre, pour nous intégrer dans son palais, dans sa famille, dans sa présence. Et dans la mesure que nous avons compris cela, que nous l'avons accepté, c'est la mesure que nous sommes prêts à la vivre et que nous allons l'illustrer, le modeler dans notre Église pour qu'on puisse nous appeler aussi chrétiens. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va appeler chrétien ce matin? Est-ce que notre vie personnelle qualifie de chrétienne? Est-ce que notre vie d'église, notre église qualifie d'une église chrétienne? Sinon, rien n'empêche de le devenir enfin et d'enlever toutes ces couches, ces fausses conceptions de ce qu'est chrétien et de revenir à ce que Dieu nous montre dans la personne de Jésus-Christ et dans cette église d'Antioche. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble.